Chapitre 31. Centre pénitentiaire de Bemao, 9h31. Depuis son retour en Guadeloupe, Valéric n'était jamais revenu à la prison de Bemao. La dernière fois, en 2003, elle était presque neuve. C'était dans une autre vie, avant son départ en métropole pour un ultime au revoir. Valéric, en traversant les couloirs cloqués du centre pénitentiaire, tente de repousser les souvenirs, les regrets, la culpabilité. En moins de 30 ans, la prison a vieilli. Plus que lui. Contrairement à elle, il s'est reconstruit. Il l'espère, du moins. Sinon, comment aurait-il eu la force de revenir dans cette île? Escorté par deux surveillants, le commandant entre dans un ascenseur réservé au personnel. Il a demandé à Serge Pélissier, le directeur de la prison, de leur fournir une pièce isolée. Ni une cellule, ni un parloir.
« Prenez mon bureau !»
a aussitôt proposé Pélissier. Le directeur n'allait pas tergiverser avec cette dizaine de journalistes qui campent sous ses fenêtres, le sous-préfet en permanence en ligne directe.
« Et faites ce que vous voulez avec ce carboiseur !» a ajouté le patron de la prison. « Si vous pouviez même l'embarquer !»
Le bureau offre une vue furtive sur la mer et le port de plaisance de Bemao. C'est sans doute la seule pièce de la prison à disposer de ce privilège. Les autres se contentent d'un panorama sur les murs d'enceinte, les barbelés. Au mieux perçoivent-ils le bruit incessant des véhicules sur la Nationale 11 et les odeurs de la station d'épuration. Fauteuil de cuir, table basse de verre, tableau d'Hector Charpentier au mur, la décoration du bureau de Pélissier tranche avec la vétusté du bâtiment. Le commandant Cancel s'est assis face à Évariste Pigeon et son avocate. Le quimboiseur tient l'enveloppe dans sa main. Évariste Pigeon, au bon soin de mettre le crâne. GISTIS 971. 129 rue Saint-John-Perse. 97-110, Pointe-à-Pitre.
Ouvrez-la, mon Dieu !
S'impatiente Valéric.
Du calme, commandant.
Tempère Célanie le crâne.
Mon client est libre de prendre connaissance de ce courrier quand il le veut.
La lettre est arrivée, comme la précédente, dans la boîte aux lettres du cabinet GISTIS 971. Le harponneur sait forcément que toute correspondance entre un avocat et un prévenu est inviolable, y compris par un juge ou un préfet. Il adresse ce courrier à Évariste via son avocat, mais en réalité, c'est tout autant au commandant qu'il est destiné. Un jeu? Un défi? Pour qu'il soit ouvert devant lui? 24 heures en prison ont requinqué Évariste. Le SDF, puant et tremblant, apparaît lavé, rasé, parfumé. Célanie le crâne, du haut de son 1m50, affiche un sourire satisfait. Elle a averti le commandant dès que la nouvelle lettre est arrivée chez GISTIS 971, par courtoisie, a-t-elle précisé, pour lui prouver la bonne foi de son grand-père.
Votre présence ici est une faveur que je vous accorde, commandant. J'aurais très bien pu remettre cette lettre à mon client en privé.
Valéric ne se laisse pas impressionner.
Une faveur? Je suis le seul à pouvoir convaincre le juge Coury de transformer la mise en examen de votre grand-père en simple statut de témoin assisté.
Pas seulement assisté, commandant.
Témoin éclairé. Témoin inespéré. Sans mon client, vous n'auriez jamais pu sauver Fabien Collin d'une mort atroce par hypothermie, ni retrouver la trace d'Audrey Colombelle.
Valéric fixe les yeux éteints d'Évariste, puis ce vif et perçant de l'avocate.
Maître, nous sommes entre nous, n'est-ce pas? Nous pouvons nous parler franchement. Vous êtes une avocate réputée. Vous avez étudié en métropole et aux États-Unis. Vous ne pouvez pas croire à ces délires. Les visions, le quimbois, l'œil noir.
Célanie devient soudain sérieuse, oubliant toute ironie oratoire.
Écoutez-moi bien, commandant. J'ai demandé à mon grand-père s'il mentait et il m'a juré que non. Sa parole me suffit. Un avocat n'a pas d'autre choix, commandant. Il s'en tient à la version de son client.
Valéric soupire et s'enfonce dans le fauteuil du directeur de la prison.
D'accord, alors finissons-en. Monsieur Pigeon, ouvrez-moi cette foutue enveloppe.
Évariste obéit cette fois. Il déchire l'enveloppe et en tire avec délicatesse une feuille de papier. Il la déplie et la pose sur la table. Valéric retient un cri. Célanie le crâne n'a pas pu contrôler le sien et s'étouffe dans une toux de dégoût. Seul Évariste paraît indifférent à l'image de la mort. La photographie devant eux représente le corps d'Audrey Colombel, allongé sur une tombe de pierre, le cœur transpercé d'un harpon. Morte, bouche ouverte, yeux révulsés, bras croisés sur sa poitrine ensanglantée. Une photo de sa tante, devant la cascade parabole et le grand Akomaboukan, a été glissée entre ses doigts. Valéric, Célanie et Évariste lisent le message. Il ne faut pas laisser le monde libre aux chasseurs d'aube. Tous les trois ont reconnu la tombe grise. C'est la plus détestée de la Guadeloupe.